Bonjour.
Un royaume d'amour et de lumière. Prenons nos Bibles et allons en 1 Jean 1, 1 Jean, 1er épître de Jean, au chapitre 1, une grande clé. Dans le royaume d'amour et de lumière, quand il s'agit d'exercer notre autorité en Christ, c'est d'être sans équivoque dans notre croyance, surtout en ce qui concerne le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est un royaume d'amour et de lumière, et nous devons être catégoriques. Car la plupart des temps, les gens disent que Dieu est lumière, et puis, quand un croyant meurt, ils disent que Dieu l'a appelé à la maison. Alors, Dieu est-il un Dieu tragédie? Non, non. Alors, j'aimerais que vous compreniez à tel point que vous ne soyez pas douteux dans votre croyance. Que nous soyons convaincus qu'il ne s'agit pas de quelque chose auquel on fait allusion, mais de quelque chose d'absolu. Nous devons nous efforcer à comprendre que le royaume de Dieu est un royaume d'amour et de lumière, et qu'il existe bien sûr un royaume en opposition à celui-ci. Mais en 1 Jean 1, au verset 5, il est dit la nouvelle que nous avons apprise de lui. Et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Le mot nouvelle est un terme technique dans la loi. De la déclaration d'un décret ou d'un jugement final. Quand vous passez en revue tous les faits et vous avez entendu tous les témoignages, vous avez examiné les preuves, votre conclusion finale, c'est ce que ce mot message veut dire. Et une fois que nous avons par exemple jeté un œil aux évangiles, où Jésus a dit, moi et mon Père, nous sommes un. Si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Quand nous regardons le témoignage de l'apôtre Paul, ou à celui de Pierre, Jacques, etc., et ici, en Jean, ça veut dire, après avoir examiné toutes les preuves, comme le don du Saint-Esprit, nous l'avons opéré, nous avons regardé aux manifestations, et nous avons vu que ça n'apporte que du bien et des bienfaits, notre conclusion devait être que ce royaume de Dieu doit être lumière. Et il ne doit pas y avoir des ténèbres. C'est ça le message que nous devons avoir après avoir lu la parole de Dieu. Nous devons arriver à la conclusion selon laquelle Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui des ténèbres. Il est lumière. Et de ce coup, ce royaume doit être un royaume de lumière. Le décret final est donc que Dieu est lumière. Cas clos. Alors, que voulons-nous dire quand nous disons que Dieu est lumière? Il n'est pas littéralement lumière. Dieu est esprit. Il est invisible. Il n'est pas fait de matière. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est lumière? Tout d'abord, cette phrase « Dieu est lumière » est une figure de rhétorique. « Sin katabasis ». Alors, si vous dépecez ces mots, « sin » veut dire « ensemble », comme quand deux choses sont synchronisées, elles sont ensemble, et puis « kata », qui veut dire « en bas avec ». Mouvement. Et « basis » veut dire « aller ». Ainsi donc, si nous voulons aller en bas avec mouvement ensemble, où voulons-nous arriver? Nous devons arriver au niveau de l'homme, pour que ce dernier comprenne Dieu. Quand nous arrivons à la lumière, nous voulons comprendre Dieu. Dieu définit ses vertus, ses attributs, son essence, dans les thèmes que l'homme peut comprendre. Par exemple, nous devions associer la lumière à l'illumination, parce que avec l'illumination, nous pouvons voir aussi la pureté est une autre chose que nous pourrions associer à la lumière. Parce que la lumière est très claire. Je pense aussi à la chaleur. La lumière fait aussi allusion à la sécurité. Car quand le soleil se couche, les gens, surtout dans les villes, ferment les fenêtres de leur maison et allument la lumière. Non seulement ça les aide à naviguer dans leur maison, mais ça leur donne le sentiment de sécurité. La bonté, l'honnêteté et l'ouverture. Tous ces mots font allusion, bien sûr, à Dieu. La lumière, parfois, ça fait du bien d'étudier la parole, hein, de méditer les Écritures à tout moment. Quand nous travaillons, quand nous marchons, voyez-vous, la lumière fait aussi penser, fait, si vous voulez, la lumière, quand on pense à la lumière, vous voyez l'espoir. Et tout ceci sont des attributs merveilleux de Dieu, dans son amour et sa lumière. La deuxième phrase de 1 Jean 1,5 dit « Et qu'il n'y a point en lui de ténèbres ». Tout d'abord, le mot « ténèbres » est le mot grec « toskos », qui veut dire une absence de lumière ou privé de lumière. Mais la chose unique de ce verset, c'est cette double négation. Il n'y a point, ça clôture le cas. C'est tellement clair qu'il n'existe personne qui ne puisse comprendre ce verset. Nous savons que dans la vie, il y a l'obscurité. Hein. Chacun a déjà connu les côtés négatifs de la vie à un moment hein, de sa vie. Ça nous affecte dans nos familles, au travail, avec nos amis, à l'école. Ainsi, il y a un autre royaume à considérer. Et ce royaume doit être un royaume en opposition à l'amour et à la lumière. Parce que les ténèbres ne peuvent pas être composées. Si vous voulez, on ne peut pas comparer les ténèbres à la lumière. Le froid n'est pas équivalent à la chaleur. D'ailleurs, quand nous mesurons la chaleur, nous ne mesurons jamais le froid. Le thermomètre est affecté par la chaleur. Quand on lit moins 2, c'est moins 2 de chaleur dans cette zone. Comme dans le conditionnement d'air, hein, notre point focal, c'est la chaleur. La mort n'est pas l'équivalence de la vie, mais l'absence de vie. Allons dans l'Apocalypse. Apocalypse 16. Et au verset 10. Le cinquième ange, versa sa coupe sur le trône de la bête. Et ce royaume fut couvert de ténèbres. Et les hommes se mordaient la langue de douleur. Eh bien, ce royaume, depuis la chute, fut couvert de ténèbres. Et ce mot, skotos, absent de lumière, est... Les fausses doctrines représentent l'absence de lumière. Et quand je pense à cette partie du verset, et les hommes se mordaient la langue de douleur, vous savez, que depuis sa chute, son slogan a toujours été « Il faut qu'on souffre, il faut souffrir. » Car si l'adversaire ne veut pas infliger la douleur, pour nous forcer à faire ce qu'il veut qu'on fasse, alors il n'a pas de profit. Il y a des vérités sur les royaumes en opposition dans la parole. Alors, à Éphésiens. Éphésiens. Chapitre 6 d'Éphésiens. Et au verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les dominations. Contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ça parle de ces autorités puissantes dans le royaume où il n'y a pas de lumière. Et leur point focal, c'est de nous garder, toute puissance, toute personne, si vous voulez, loin de la lumière. Regardons de près à cette puissance qui peut être, si vous voulez, traduite par autorité. Comment l'ont-ils reçu? D'où l'ont-ils reçu? Pourquoi l'ont-ils reçu? Alors, à Genèse 1, parfois, Les gens disent que Dieu a donné à ces autorités de ce monde la puissance, hein, pour nous punir quand nous faisons quelque chose de mauvais. Mais nous ne voulons pas. Mais nous, nous allons à la parole, hein, et laisser l'analyse, si vous voulez, finale, nous dire la vérité. Et en Genèse 1, verset 26, puis il dit, si vous voulez, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Vous voyez ? Ainsi donc, Dieu créa, si vous voulez, à l'origine, Dieu donna l'autorité directement à l'homme, à Adam et Ève. Et le récit en Genèse 3, verset 10, Genèse 3, verset 1, il est dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Vous voyez? Vous voyez, si vous continuez le récit, hein, vous apprendrez ce qui se passera. C'était qu'Adam et Ève donna l'autorité que Dieu leur avait confiée. Elle était la leur et ils pouvaient en faire ce qu'ils voulaient. Ils la donnèrent aux autorités de ce monde des ténèbres. Ils sont mauvais, sans pitié. Et la façon dont ils ont reçu cette autorité de serpent, hein, on va regarder à Luc. Vous voyez, ils sont très méchants, ces esprits diaboliques. En Luc 4, nous allons apprendre comment ils ont reçu cette autorité. Luc, évangile. Au verset 6, il est dit, et le diable lui dit, je te donnerai toute cette puissance, ça veut dire exousia, qui veut dire puissance exercée dans un sphère d'autorité, et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée, et je la donnerai à qui je veux. Et c'est ce qu'il fit exactement. Comment alors ces autorités de ce monde de ténèbres ont-ils reçu cette puissance du diable? Et ils l'ont à leur tour distribuée aux esprits qui travaillent avec eux. Et ils le font légalement, sur une base légale. Dans le sens, le diable est en train de dire ceci. J'ai cette autorité en charge et je vais la donner à qui je veux. L'autorité d'Adam et Ève a été transférée au diable. Et le diable l'a distribué à qui il veut. Vous voyez, parfois les gens signent un contrat, hein, sans vraiment en comprendre le contenu ou les clauses. Et en le faisant, c'est légal. Et ils ont changé l'autorité qu'ils avaient auparavant. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas lu, ils n'avaient pas lu toutes les causes. Il n'y a pas de raison de ne pas comprendre que Satan a reçu l'autorité d'opérer à partir du vrai Dieu pour exercer ses ténèbres. Vous savez, Dieu n'utilise pas l'adversaire pour garder l'homme dans son sillage ou pour nous apprendre une chose ou deux. Dieu ne fonctionne pas comme ça. C'est un Dieu d'amour et de lumière. Il utilise sa parole. Et en psaume 107, allons-y, psaume. envoya sa parole et les guérit. Et en psaume 119, au verset 105, il est dit, sa parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Tout ce qui est contraire au royaume, c'est-à-dire à l'amour et à la lumière, est un mythe. Et ces deux versets que je viens de citer, si haut, détruisent ce mythe. Ce n'est que Jésus-Christ est venu faire connaître le Père. Et il a déclaré un Père céleste, tendre, hein, plein de compassion. Comme Larry a dit, Jésus dit à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Les paroles et les actions de Jésus dans sa vie, et lorsqu'il était en contact avec tout le monde, et abstention faite, vous voyez, à leur niveau de croyance, ces paroles et actions nous conduisaient toujours à cette réalité selon laquelle Dieu est amour et lumière. En Jean 10:10. Jean 10:10. Évangile de Jean. Écoutez ceci, je voudrais vous montrer la différence entre ces deux royaumes, leurs différents objectifs et leurs différentes missions. N'est-il pas intéressant de savoir que Dieu traite avec nous comme Jésus a traité avec les gens? Combien aimant et bon il était. Vas-y donc, si vous tombez dans le pied de l'adversaire, il y a toujours une voie de sortie. Car Dieu est amour et il est lumière. Et son royaume est amour et lumière. Et en Jean 10:10, nous allons lire ce que je viens de vous dire. Et ce que je viens de vous dire est établi dans Jean 10:10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. La première chose, c'est le voleur. Ici, c'est l'aspect subtil de l'adversaire. C'est fait avec style, avec ruse, mais c'est sur base légale. Et ensuite, il est dit le voleur ne vient que, tout d'abord, le voleur vient. Ce n'est pas Dieu qui l'envoie, c'est sa propre décision. Il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Le mot « ne » annule tout autre objectif. Son but ou objectif final, c'est dérober, égorger et détruire. En d'autres termes, l'adversaire n'offre aucun bienfait, tout est contrefait. Ça peut dire un billet de 5 000 $, mais c'est contrefait et du coup sans valeur. Il peut vous offrir ce que vous considérez être un bienfait, mais c'est sans valeur, car c'est contrefait. Ainsi, il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il n'a aucun autre but. Dans le passé, je me rappelle un livre intitulé « Traité avec l'adversaire ». Nous n'avons aucun marché à conclure avec le diable, car il n'a rien à offrir, sinon de la contrefaçon. Alors, pourquoi aimeriez-vous conclure un marché avec lui? La parole dit que Dieu a départi à chacun la mesure de foi. Quel autre marché voulez-vous conclure? J'ai lu un livre dans lequel le pasteur disait au diable qu'il ne citerait pas son nom dans les sermons s'il laissait son église tranquille. Ça ne peut pas marcher. Et quel que soit le marché qu'il conclut, il va continuer à dérober, à égorger, à détruire. Et la façon dont il dérobe, c'est qu'il dérobe des choses qui vous sont précieuses, telles que votre intégrité. Il vous convainc à faire quelque chose de mauvais. Et quand vous êtes confronté, vous mentez. Voyez-vous, quand vous avez besoin de cette chose précieuse, elle n'est pas au rendez-vous. C'est comme quand quelqu'un vous a piqué la voiture. Vous vous réveillez le matin, vous prenez une douche, vous brossez les dents, vous rasez, vous descendez pour prendre le petit déjeuner, et vous prenez les clés, et quand vous sortez de la maison, votre voiture a disparu, juste au moment où vous en aviez besoin. Il le fera avec votre intégrité, vos finances, votre santé et tous les autres aspects de votre vie. On n'a aucun marché à conclure avec notre adversaire. Et quand vous le protégez, il dérobe votre intégrité. Et ne vous en rendrez pas compte jusqu'à ce qu'il n'est plus là. Et ce qui vous reste, c'est de tenir le sac de ce sale secret. Nous avons tous des valeurs fondamentales, c'est-à-dire... Nous avons un système de croyances qui sépare le vrai du faux. Et l'adversaire travaille en sorte que nous lâchions prise sur ce qui est vrai. Il s'agit d'une chose individuelle. Il nous laisse faire le mal. Ça ne doit pas être nécessairement un meurtre. Il nous pousse à cacher les défauts. Et comme Larry a dit, nous en payons les pots cassés pour les avoir cachés. Nous devenons esclaves en cachant des secrets, et nous perdons notre intégrité. Et l'adversaire ne voudrait pas que, si vous voulez, Larry enseigne ces choses pour que les gens ne soient pas dans la lumière. Nous devons savoir que l'adversaire n'a aucune mission de lumière. Alors, le prochain mot dans Jean 10:10, c'est égorger. Il ne s'agit pas ici de tuer comme dans un sacrifice ou dans une offrande. Il serait très heureux de nous voir sacrifier notre vie pour des causes secondaires. Il est d'actualité dans notre culture de voir des gens sacrifier leur vie, toutes leurs ressources et énergies aux causes écologiques ou aux animaux, etc. Il fera tout pour que nous adorions, si vous voulez, pour que nous n'adorions pas le seul vrai Dieu. Son royaume retire la vie. Et le coût est énorme. Tandis que l'autre royaume ajoute la vie au-delà de ce que vous pouvez demander ou penser. C'est à ce niveau que Dieu nous bénit. Pensez à Matthieu 6:33 qui dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Voilà la perspective de Dieu. Et l'autre, et si vous voulez, Proverbe 10:22, où il est dit que la bénédiction de Dieu nous enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Il y a de la joie dans la vie. Les choses que nous pouvons vivre, que l'argent ne peut acheter. Vous savez, la personne la plus riche de la planète ne pouvait pas acheter sa santé. Alors que nous, si nous nous déterminons, nous pouvons l'avoir. En Deutéronome 28, vous savez, j'aime ce verset. Il est dit que si nous marchons le long du chemin du Seigneur, les bénédictions nous dépasseront. C'est là que je vais être pour avoir ces bénédictions. Le voleur ne vient pour une autre raison que gaspiller nos ressources et gâcher les capacités que nous avons. Voilà le royaume à l'opposition. Mais nous devons nous rappeler que le royaume de Dieu est un royaume d'amour et de lumière. Vous pouvez aller à Dieu à tout moment. Et nous, étant membres de la famille de Dieu, nous trouvons dans ce royaume, nous devons être amour et lumière. Les gens doivent avoir où aller quand ils ont besoin de délivrance. Ces attaques sont terribles et vicieuses, je vous assure. On lit que le diable ne vient que pour détruire. Vous savez à quoi ça ressemble quand ça vous arrive? Et vous ne voulez pas que ça arrive aux autres. Le mot détruire ici n'est pas le sens d'annihilation ou de génocide, mais bien l'effacement de tout ce que vous avez soutenu dans la vie. Nous voyons ici, par exemple, dans le domaine politique, quelqu'un qui a été un héros de guerre, en sauvant la vie, si vous voulez, en sauvant bien sûr la vie des gens. Il rentre au bercail, et s'implique dans la politique, Il fait des pactes à gauche et à droite. Il devient lui-même corrompu. L'adversaire va complètement détruire sa complète réputation. Alors, que deviendra cet homme? Si nous, qui appartenons au royaume, ne l'aidons pas en s'en débarrassant et d'obtenir le pardon et d'en être libre. Chaque esprit dans ce royaume en opposition fait la même chose et cherche la même chose à dessein. Ils ont une même mission, égorger, dérober et détruire. Dérober ce qui est précieux, égorger pour nous faire sacrifier nos ressources aux secondes causes, et détruire ou mettre en ruine la réputation de notre vie. Si nous continuons à regarder ce verset, il y a un contraste. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Il s'agit là d'un message formidable dans les Écritures. Tout d'abord, le mot « vie » sous-entend qu'il y a la vie de la terre au ciel. Cela vit dans tous ses aspects. La vie, c'est une énergie qui donne l'animation, la vitalité, l'autopuissance et ensuite, cette expression dans l'abondance. Il ne s'agit pas seulement de la vie, de circuler, mais c'est la vie plus qu'abondante. C'est ça la volonté de Dieu. Dans l'abondance veut dire au-dessus de la mesure ordinaire. Nous allons faire un peu de recherche sur ce mot. Allons à Matthieu. Matthieu 14. Et à partir du verset 15. Quand il sortit, à partir du verset 14. Donc Matthieu 14, au verset 15. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent : ces lieux est désert et l'heure est avancée, renvoie la foule afin qu'elle aille dans le village pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit : ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit, apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ici, le mot rester, c'est le même mot qu'abondance, en Jean 10:10. Et ça veut dire au-dessus de la moyenne mesure, ou être au-dessus de la mesure ordinaire. Ici, vous avez une situation, 5000 hommes, bien sûr, des hommes et des femmes, qui mangèrent et furent rassasiés, 5 pains et 2 poissons. Et quand ils rassemblèrent le pain, si vous voulez, le reste, hein, il en resta 12 paniers pleins de morceaux. C'est ça au-dessus de la mesure ordinaire. Et c'est ça qui veut dire être abondant, être au-delà de la mesure ordinaire, plus qu'abondant. Et en Colossiens, je voudrais vous montrer que Dieu nous a, je voulais, enlevé de ce royaume et nous a placé dans ce royaume. Colossiens chapitre 1 et au verset 13, il est dit qu'il nous a délivré, c'est-à-dire Dieu nous a délivré de la puissance exousia, qui est cette autorité exercée sur une sphère de responsabilité. De l'autorité de qui? Des ténèbres. Vous vous rappelez, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Nous nous sommes donc plus sous ce royaume. Dieu nous en a délivrés. Et ça continue en disant, et nous a transportés. Et nous a transportés où? Ça veut dire qu'il veut, Dieu veut que nous ayons la citoyenneté de son royaume, par le travail accompli par son cher fils. Nous avons la citoyenneté, et avec cette citoyenneté vient l'autorité que nous devons utiliser. Et il s'agit d'une grande autorité que les princes de ce monde de ténèbres ont. Vous voyez pourquoi nous, dans le royaume d'amour et de lumière, devons nous aimer les uns les autres. Là où l'adversaire nous a fait signer le contrat sans avoir lu toutes les clauses. Il doit y avoir quelqu'un de si gentil, de si aimant, pour nous aider à sortir de ces situations, pour que nous voyons la beauté, l'amour du royaume de Dieu, et la façon dont les gens doivent vivre, et le pardon qui existe, car Dieu est amour et lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui. Alors, comment doit être notre cœur? Nous devons être disposés à aider ceux qui sont coincés dans ces situations. Et on doit leur rappeler qu'ils ont été délivrés. Car tout ce que nous allons faire, c'est de délivrer avec la puissance de Dieu. Et c'est notre boulot. Et c'est ça notre boulot. C'est ça le message que nous devons partager avec les gens. Et j'aimerais clôturer avec Apocalypse 11. Mais nous avons commencé avec 1 Jean 1, 5, la nouvelle que nous avons apprise. N'est-ce pas? C'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Et en Apocalypse 21, allons-y. Au verset 3, alors, et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. C'est dans le futur, quand tout sera en perfection totale, nous avons l'autorité d'opérer maintenant. Mais il est dit, et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, il essuiera toute l'âme de leurs yeux, on peut l'être maintenant, et la mort ne sera plus, il n'y aura plus de deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes ces choses nouvelles, et il dit, écris, car ces paroles sont certaines, et véritable. Les hommes ont beaucoup parlé. Nous apprécions ce qu'ils ont dit. Mais quand il s'agit du royaume de Dieu, ce royaume d'amour et de lumière, ces paroles sont certaines et véritables. Il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga. Et en grec, ça veut dire, quand les Grecs allaient, vous savez, à la guerre, ils avaient des messagers qui disaient aux troupes où ils devaient se trouver, où ils devaient aller. Et quand ils avaient le dernier décret, le dernier message, le message disait, je suis l'alpha et l'oméga. Et si vous voulez dire, c'est le seul message que vous allez recevoir. Et voici le message. Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. C'est ça le message. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau vive, si vous voulez, de l'eau de vie, gratuitement. Notre message est de partager avec les gens qu'il y a un royaume d'amour et de lumière. Et dans notre Dieu, il n'y a point de ténèbres. Amen.